Estrie. Midi, actualité. Le commentaire de Mathieu Beaumont.
Midi 46, presque 47. Bonjour, bon vendredi Mathieu.
Bonjour vous deux.
Bonjour Mathieu. Alors Mathieu, on est en attente de cette sentence d'Alexandre Bissonnette qui n'est toujours pas sortie au Palais de justice de Québec, mais déjà, on peut penser que sur les médias sociaux, là, ça va se déchaîner et que ça sera pas très beau à voir. Là.
Non, effectivement. Puis il y a une nouvelle pause qui a été demandée d'ailleurs là, par le juge dans les moments où pendant qu'on se parle, qu'il y aurait encore un peu de lecture à faire. Mm. Il a fait l'énumération dans les dernières minutes à peine des facteurs atténuants dans son cas.
Oui.
Alors que c'est quand même pas banal ce que l'on entend. Là. C'est 240 quelques pages de jugement qu'il est en train de lire. Ça fait plus de 2h30 que la lecture est commencée. Moi, j'ai pas vu ça souvent. Mm. Vous me direz, à crime exceptionnel, rendu exceptionnel aussi, mais pour les gens qui couvrent la scène judiciaire à Québec, on s'attendait un petit peu à ça avec le juge qui est sur le banc aujourd'hui.
Oui.
Il va... moi, ce que je m'attendais aussi de peut-être voir, puis, tu sais, c'est... Il va avoir une peine exemplaire, tu sais, qui va être donnée pour Alexandre Bissonnette. C'est pas compliqué. Il ressortira pas avant 25 ans ou il ressortira plus jamais de sa vie.
Ouais.
Il sera pas... Puis je vais reformuler ce que je viens de dire parce que c'est même pas tout à fait vrai. Il ne sera pas susceptible ou admissible.
Oui.
Une libération conditionnelle, une libération possible avant 25 ans.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
On s'entend.
Ça, c'est clair.
Oui.
Moi, ce qui m'a écœuré, là, Marie-France puis Jean-Sébastien, c'est de voir sur les médias sociaux des gens qui, en assumant, ils ont le droit de le dire, sa liberté d'expression, ça vient avec. On a le droit aussi de trouver ça cave. Des gens qui s'en vont dire, on sait bien, c'est parce que, en faisant une connotation... À cause de l'appartenance religieuse des victimes, Alexandre Bissonnette, pauvre petit, va avoir une peine pas mal plus sévère que s'il s'en était pris à des bons blancs québécois de souche. Là. J'ai lu ça et
alors
pas une fois.
Alors que ça n'a aucun rapport, on s'entend. Là.
Mais les juges ici sont assez chevronnés puis je crois pas que ça va faire une différence.
Ça ne changera rien. Il a tué 6 personnes.
C'est ça.
Nonobstant quoi, il a tué 6 personnes.
C'est ça.
6 concitoyens alors qu'il a plaidé coupable.
En plus,
revenons là-dessus. Oui. Là. C'est un fait qui est... celui-là, on ne peut pas en sortir. Il plaide coupable à avoir tué 6 personnes. Je m'en sac dans le cas que ce soit, qu'il soit de n'importe quelle appartenance religieuse, de n'importe quelle origine ethnique, de n'importe quel groupe musical qu'ils aimaient de leur vie. Ce sont 6 personnes et à leur entourage à qui on a enlever la vie.
Mm.
On a brisé la vie de familles, de dizaines de membres de famille autour de ces gens-là.
Et des gens qui ont été blessés, Mathieu, qui handicapés, vivent avec des séquelles importantes.
Exactement, oui. Handicapés jusqu'à la fin de leur jour.
Oui.
Parce que ce gars-là a décidé à un moment donné de prendre un gun puis d'aller ouvrir le feu sur 6 de ses concitoyens dans une espèce là, de folie. Il y avait un très, très bon dossier dans la presse plus en fin de semaine d'Isabelle Haché.
Oui, de mieux comprendre un peu son psyché, est-ce qu'on parle de santé mentale, d'intimidation au secondaire.
Le build-up qui a amené à qu'est-ce que Alexandre Bissonnette a fait au moment où il s'est présenté à la mosquée de Québec en 2017. Puis moi, là-dessus, je ne peux pas consentir, je ne peux même pas comprendre que le plus sérieusement du monde, moi, quelqu'un dans mon entourage m'arriverait avec une affaire comme ça, je te dis, ça va être ça sera pas une discussion, ça va être un monologue. Tu peux pas dire, mais non, mais c'est parce qu'il s'est attaqué à des gens, on sait bien, parce qu'il s'attaque à des gens qui sont de religion musulmane, ça va être un crime pire que celui qui s'y avait abattu 6 Québécois pur laine. C'est tellement idiot. Dites-le, ça vous passe par la tête avant de l'écrire, dites-le à voix haute, là, puis demandez-vous si ça a de l'allure. Puis si vous trouvez que c'est encore de l'allure, répétez-le jusqu'à temps que vous veniez à vous raisonner pour dire « Ben oui, non, ça n'a pas de sens ce que je dis là. »
Et malheureusement, Mathieu, c'est ce qui risque d'arriver tout à l'heure.
En même temps, puis c'est déjà fait, puis tu sais, je veux juste, pour ceux là, qui sont les théoriciens du complot et autres illuminés de ce monde, là, en même temps, à Toronto, Bruce MacArthur a été condamné à la peine à perpétuité sans libération avant 25 ans. Puis je veux juste vous rappeler dans les facteurs de différence entre MacArthur et Alexandre Bissonnette. MacArthur est pas mal plus vieux, là. Donc lui, 25 ans, c'est aussi bien dire qu'il ne sortira jamais de prison.
Ce sera terminé.
MacArthur a assassiné des gens nonobstant leur couleur, leur appartenance religieuse, mais à cause d'un seul fait, c'est que ces gens-là étaient des homosexuels Il les a démembrés, il les a enterrés sur sa propriété et sur d'autres propriétés de Toronto. C'est un tueur en série.
Ouais.
Ça n'a pas rapport à ce qu'il était musulman ou pas. C'est juste que c'est un autre fêlé.
Un psychopathe.
Qui est un fait exactement, qui avait une lubie, comme Alexandre Bissonnette. Lui, ce n'était pas ses musulmans, puis ce n'était pas sur l'immigration. C'était sur le fait qu'il y avait des gens, des homosexuels pour lesquels, visiblement, il entretenait une haine. Au point de leur enlever la vie.
Mais Bissonnette, Mathieu, dans le dossier, justement, on lisait qu'il voulait marquer l'histoire ou laisser quelque chose de gros derrière lui. C'est un peu ça aussi qui le motivait. Puis, en tout cas, c'est troublant de lire ça. Là.
Mais on a vu ça régulièrement aussi dans des tueries de masse. Ce fait-là, cette caractéristique-là revient régulièrement.
Oui.
Carrément. Bon, oui, effectivement. Mais moi, je trouve qu'on a une espèce de... On dirait que parce que... Il y a des gens qui ont tellement peur... de la religion, d'une religion qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne fréquentent pas, que ça leur permet de dire n'importe quelle ineptie et idiotie. Puis ils ne se rendent même pas compte à dire « Ben oui, mais c'est une religion d'intolérance qui prône la violence. » C'est bon, vous entendez-vous comme vous parlez?
C'est la méconnaissance.
Ben, c'est pas juste de la méconnaissance, c'est de l'idiotie pure et sûre. Et dure.
Oui.
Tu es en train de pratiquement, puis comme notre bonhomme qui est arrêté la semaine passée, là, notre porte-parole des Gilets jaunes du Québec, là, qui légitimait pratiquement le fait que c'était un défenseur puis c'est un grand homme. Non, c'est pas un grand homme. C'est un tueur de 6 personnes de sa communauté à qui il a enlevé la vie. Moi, pour ça, j'ai pas beaucoup de pardon. Et Alexandre Bissonnette, maintenant, je vais laisser aux experts ou au système judiciaire de décider si c'est une peine consécutive ou ce sera une peine, mais il en aura pour il sera dedans pour un sacré bout de temps.
On va parler maintenant, Mathieu, de la gestion de l'immigration. Piètre gestion de l'immigration et de Simon Jolin Barrette. Qu'as-tu à dire là-dessus?
Écoute, le dossier ce matin, on apprenait dans le fond hier qu'il y avait 18 000 dossiers qui vont être effacés par le gouvernement. Des dossiers qui.
Non, moi, traités.
Je ne peux pas comprendre. Comment se fait-il que dans la machine gouvernementale en folie, qu'il y ait des dossiers d'immigration qui traînent depuis 2005?
18 000!
18 000, puis les plus vieux sont là depuis 14 ans sur des bureaux qui traînent. Ça, là, c'est des gens qui sont soit ici ou soit qui voulaient venir ici,
qui attendent.
Dont le dossier traîne, puis que pendant des mois, ils se sont dit « Ben, écoute, on va peut-être avoir l'appel à un moment donné ». Ben, coudonc, je vais peut-être l'avoir l'an prochain. Puis là, au bout de 2-3 ans, je vais se dire, ben, coudonc, finalement, je ne vais pas être accepté.
Il viendra pas, la peine.
Puis il viendra jamais. Puis ils ont bien raison, parce qu'il viendra jamais. Puis paradoxalement, pendant que tu annonces ça, ce qui est complètement fou, là, parce que quand tu as des dossiers aussi vieux, je comprends que le gouvernement est pogné avec ça, parce que, de un, ces gens qui ont fait ces demandes à ce moment, ça ne veut pas dire que leur situation est encore la même, mais leur intérêt est-il le même également de s'établir ici? Est-ce qu'ils sont encore ici? Ça, c'est l'autre question également, pour régulariser leur affaire. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la façon dont on dit après ça, on dirait qu'on a une espèce de pensée magique. Là, le gouvernement veut faire une espèce de contrat moral avec des immigrants, leur disant, bien, vous allez vous installer en région, faire une espèce de contrat moral où tu vas aller t'installer à Lac-Mégantic si tu as une job, exemple, de commis de bureau parce qu'il manque de soudeur, puis tu vas aller travailler à Lac-Mégantic, puis tu t'engages à rester là pendant un certain temps. Un contrat moral. Ça c'est comme rien. Là.
Ça vaut ce que ça vaut.
Ça vaut absolument rien, un contrat moral. Parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire à un certain moment, on ne peut pas empêcher quelqu'un, même un Québécois, de dire, écoute, je vais t'envoyer travailler à Val-d'Or, puis on va signer un contrat moral ensemble pour dire, tu vas rester à Val-d'Or. Ça se peut que si tu t'habitues jamais à Val-d'Or,
qu'à
un moment donné, tu vas vouloir t'en aller. C'est normal. C'est pas différent pour les immigrants. Même des fois, c'est encore plus difficile parce que tu arrives dans une communauté. Je vais faire un parallèle que vous allez comprendre nous-mêmes comme Québécois. Pourquoi il y a autant de Québécois qui sont installés en Floride dans le coin de Allendale puis dans le coin d'Hollywood? Ben, c'est parce que quand tu as une communauté qui est là, ben, tu vas aller souvent te greffer à des gens que tu connais.
Oui.
C'est des gens que tu connais qui t'ont probablement amené là, puis tu vas retrouver un espèce de noyau.
Même chose quand on est en voyage, Mathieu, on recherche des gens souvent.
Ben oui, avec qui
tu parles aux Québécois sur la plage, tu es content de les voir, tu vas te lier d'amitié avec eux.
Mais ça,
c'est tout à fait normal. C'est grégaire. C'est un comportement humain normal. Quand tu es un immigrant qui arrive dans un pays étranger où on te dit tu viens de l'Uruguay, tu es un soudeur, Puis là, on te dit, écoute, on va faire une entente avec toi, puis ça va être à Saint-Évariste de Forsyth que tu vas aller t'installer. S'il n'y a personne de latino-américain dans ce coin-là, mais que tu sais qu'à Saint-Georges-de-Beauce, ils ont une communauté de 500, ça se peut-tu que c'est à Saint-Georges que tu vas décider d'établir tes choses? Et ça, c'est normal.
Oui.
C'est tout à fait normal. Et je pense que c'est là qu'ils rêvent un peu en couleur. Et comment tu as fait pour... Puis là, on dit, si les immigrants qui arrivent avec une promesse d'embauche, ils vont passer plus vite dans le système. Moi, ma crainte, là, c'est que dans des cas comme ceux-là, ça arrive assez régulièrement que des employeurs font des démarches pour ramener de la main-d'œuvre immigrante pour les faire travailler ici parce qu'ils ont des besoins. Mais le problème, c'est qu'ils sont confrontés à l'inertie de la machine.
Mm.
Toi, tu as une offre d'emploi, vous avez une entreprise, vous autres, là, puis on reprend notre exemple de soudeur. Puis là, tu as trouvé des candidats en Tunisie qui sont prêts à s'en venir. Puis là, tu dis, parfait, j'ai besoin de mes soudeurs là, parce que j'ai un contrat qui s'en vient. Puis là, tu frappes là, l'inertie de la machine gouvernementale à son maximum. Ouais. Ça se peut-tu que dans 6 mois, les besoins ont changé puis que finalement, tu sois pas... Tu sais, que tu te sois tourné vers d'autres choses
ben ou
d'autres mondes parce que tu peux pas juste attendre après que la machine débloque.
Ben non. Puis on sait que les délais sont longs.
Puis les délais sont longs. Tu sais, l'idée est pas folle au départ. Ce qu'il présente, c'est pas fou, là, avec Simon-Jolin Barrette. Le problème, c'est que je pense que là-dessus, ils vont se confronter assez rapidement à toute la paperasserie et la bureaucratie qui, elle, là, existe depuis bien longtemps et que souvent, elle n'a pas intérêt à changer si vite que ça non plus. Mais souhaitons-le, parce que les besoins de main-d'œuvre sont criants. Puis on l'a vu dans le passé. Puis Marie-France, je pense que tu avais couvert ça. Ce qui avait été dit par les comités d'accueil des nouveaux arrivants à Sherbrooke, c'est que les politiques d'immigration ou d'implantation des gens provenant de pays étrangers en région, ça n'a pas été des succès.
Non.
Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à la hauteur de ce qu'on pensait.
Les immigrants retournent.
Exactement. C'est excessivement... C'est complexe.
Oui.
C'est pas aussi... On a un peu une image simpliste. Puis je me souviens, quand j'étudiais en ressources humaines, on nous le présentait, ça. On nous disait, si tu es une entreprise qui veut établir, justement, tu veux aller recruter de la main-d'œuvre à l'étranger, comme si tu veux prendre de ta main-d'œuvre et l'envoyer à l'étranger, c'est pas aussi simple de dire on t'a trouvé une job où tu t'en vas à X endroit puis ça fonctionne comme ça.
Oui.
C'est pas mal plus complexe que ça, puis ça demande souvent un investissement qui est assez important de l'entreprise et de la communauté aussi, parce que sinon, c'est pas vrai que tu vas dénaturer quelqu'un, tu vas sortir quelqu'un de son territoire, le dénaturaliser, l'amener dans un nouvel endroit, puis il va faire comme... Il y a des gens qui vont s'habituer, qui vont s'adapter. Mais pour une grande majorité, malheureusement, ça ne fonctionnera pas.
C'est tout le temps qu'on a, Mathieu.
Merci beaucoup, Mathieu.
Beaumont, merci beaucoup.
Salut bien, bonne fin de semaine.
On se reparle lundi dans l'émission. Bye bye.
Et on t'écoute dans Weekend Extra. Oui. Et on salue aussi nos auditeurs de Saint-Évariste de Forsyth également.
Et de toute la belle région de la Guadeloupe.
Oh voilà. Oui, les gens de la Guadeloupe. Salut, Mathieu.